Donc, je disais, on est dans la continuité de ce qu'on a commencé d'étudier la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. On a appelé ça l'église de Dieu. Et on avait dit qu'au fur et à mesure qu'on étudierait ce texte-ci, enfin cette lettre, on découvrait au moins trois choses. D'où vient l'église, puisque c'est l'église de Dieu et que c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il bâtirait son église. D'où est-ce qu'elle vient, à quoi elle ressemble et comment est-ce qu'elle vit? Ok. Et en réalité, les trois premiers chapitres répondent déjà à la question de d'où est-ce qu'elle vient. Et je pense, enfin, j'espère que jusqu'à présent, si on demande à tout le monde d'où vient l'Église, en fait, personne ne pourrait dire que ça vient de Gaël, parce que ce ne serait pas vrai. On a vu dans les trois premiers chapitres d'où vient l'Église. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, bon, je pourrais le dire un petit peu plus tout à l'heure, on verra les réponses aux deux autres questions. À quoi elle ressemble et comment est-ce qu'elle vit. Ok. Et donc, le chapitre 4 qu'on commence aujourd'hui nous fait entrer dans une nouvelle dynamique du texte. Il faut qu'on se rappelle un petit peu de ce qu'on a vu dans les trois premiers chapitres. Si vous avez tout bien suivi, alors vous savez maintenant que dans le chapitre 1, on a vu que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis avant même la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants. Il nous a adoptés. Et il nous a marqués par le sceau du Saint-Esprit. De sorte qu'on peut vivre aujourd'hui avec la certitude absolue qu'un jour, nous vivrons avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Comme pour dire que, voilà, ceci est les arts, l'avance de quelque chose de plus grand qui vient plus tard. Plus tard, dans le chapitre 2, on a vu que, alors, puisque l'Église est bénie, on a vu aussi dans le chapitre 2 que l'Église est sauvée, que nous sommes sauvés. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés. Sauvés par la grâce de Dieu. Sauvés de nos péchés. Sauvés de chaque péché qui nous condamnait à la mort éternelle. Désormais, en Christ, nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Toujours dans le chapitre 2, à la fin du chapitre, on a vu que l'Église est unie. Dieu ne nous a pas seulement sauvés, il nous a aussi unis. Vous vous souvenez? Verset 14, chapitre 2, verset 14. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et dans le chapitre 3, dimanche dernier, on a vu deux choses. Premièrement, que l'Église est constituée de juifs et de non-juifs, de païens et de juifs, des circoncis et des incirconcis, et que ça, c'est un grand mystère. C'est le grand mystère que Dieu a révélé, que l'Église n'est pas uniquement constituée de juifs, mais aussi, on a vu que ce grand mystère est une grande mission pour l'Église aussi. Que l'Église, c'est ce qui était dans le chapitre 10, verset 10 au chapitre 3, l'Église est censée montrer aux dominations et aux autorités, quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc, on a une mission. Ici, à l'Église Le Refuge, nous sommes en réalité une représentation miniaturisée de l'Église universelle. Voilà, ok? Donc, une sorte d'ambassade de l'Église. C'est-à-dire que si les gens venaient ici, on cherche l'Église, eh ben, ils doivent nous trouver. Ok? Nous sommes une sorte de représentation de l'Église. Et au chapitre 3, selon le chapitre 3, ce que Paul dit, c'est que toutes les créatures, tous les êtres célestes et terrestres, lorsqu'ils regardent l'Église, ils doivent faire quoi? Voir la sagesse de Dieu. Voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les anges dans les cieux et même les dominations, les esprits méchants, même les autorités, même les personnes qui nous visitent, chaque fois qu'ils nous regardent à ce que nous sommes et à ce que nous vivons, à comment on vit, ils sont censés tomber des nus. Ils sont censés dire « Waouh ! pas « waouh, ils sont géniaux ces gens ». Non, il est grand leur Dieu. Vous voyez, c'est comme un reflet qu'on peut avoir sur un bout de miroir. Et l'Église est exactement ça. Chaque fois que quelqu'un regarde à l'Église, le reflet est renvoyé sur la grandeur, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et maintenant, dans le chapitre 4, Paul passe de la doctrine à la pratique. Si nous devons montrer au monde de la sagesse infiniment variée de Dieu, à quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on doit faire ça? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Et la réponse va se trouver dans le verset 1 de ce qu'on va voir là tout à l'heure. Il dit que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Marcher d'une manière digne. C'est-à-dire se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous et se demander, ok, désormais, comment je dois vivre? Et l'apôtre Paul dit, marcher d'une manière digne. Vous savez ce que c'est que marcher? Un pas après l'autre. Quand on regarde les enfants, on se souvient très bien de comment ils ont commencé à marcher. Ils titubent, ensuite le pas devient un peu plus ferme. Ensuite, c'est des tout petits pas et après ils courent. Il peut faire des sprints. C'est à cela que nous sommes appelés. En tant qu'église qui s'implante, église qui est à ses débuts, nous sommes appelés à cela, à marcher, pour courir un jour, si Dieu le veut. Et je vous invite à la lecture donc, des 16 premiers versets de notre texte. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est la parole de Dieu. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi et nous te demandons, s'il te plaît, par ton esprit, de nous parler. S'il te plaît, Seigneur, que ce texte qui est fondateur, essentiel pour notre Église, à ce stade où nous en sommes, c'est-à-dire au tout début de cette implantation, que ce texte-ci trouve écho dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, et que nous puissions répondre chacun de façon individuelle, mais aussi en tant que communauté, que nous puissions répondre à ton appel, Seigneur, répondre à tout ce que tu nous as dit, à tout ce que tu as fait dans les trois premiers chapitres, et que nous puissions marcher de manière digne. Nous demandons ça au nom de Jésus. Amen. J'ai appelé cette prédication « Une église qui s'unit ». On avait déjà parlé au chapitre 2 de l'église unie. Mais là, cette fois-ci, une église qui s'unit, c'est-à-dire qui travaille à être de plus en plus, le plus soudé possible. Et ceci dans tous les domaines possibles. Mais avant de rentrer dans le sujet, une bonne chose à remarquer, c'est que lorsqu'on parle de l'unité de l'église, de cette église qui s'unit, puisque vous avez compris que l'unité, c'est le cœur même de ce texte-ci. Lorsqu'on parle de l'Église qui s'unit, il n'est pas question d'une unité que nous devons créer. Okay? Il est question d'une unité que Dieu lui-même a déjà créée. Vous vous souvenez sûrement, et je ne résiste pas à l'idée de relire Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 14 au verset 18. Il n'y a pas de fait, hein? Et ne fonctionne plus à fond. Éphésiens chapitre 2, des versets 14 à 18. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès de Dieu dans un même esprit. Et donc en réalité, l'unité, ce n'est pas à nous de créer l'unité de l'Église. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est quoi? Découvrir cette unité, conserver cette unité, cultiver cette unité, l'entretenir. Et donc, trois points pour étudier notre texte. Si nous devons nous unir, alors nous devons nous unir dans l'amour, premièrement. On verra ça dans les versets 1 à 3. Nous devons nous unir dans la foi. On verra ça dans les versets 4 à 6. Et nous devons nous unir dans notre diversité. On verra ça dans les versets 7 à 16. Et donc, premièrement, l'unité dans l'amour. C'est une exhortation. Lorsque Paul écrit ça aux Éphésiens, je pense que c'est tout à fait pertinent pour nous aussi. Nous sommes dans cette église aussi de différentes nationalités. Nous avons des âges différents. Nous avons des niveaux d'éducation différents. Nous aimons manger des choses complètement différentes. À la télé, quand on veut regarder quelque chose, alors quand je veux regarder un film avec Grace, on passe plus de temps à réfléchir au film à regarder qu'à regarder le film en soi. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Et si on va plus loin, on pourrait voir davantage les points de différence qui pourrait y avoir entre nous. Et donc, et quand on regarde chacun de ces points de différence, on pourrait se dire, notre société est déchirée, pourquoi? À cause des différences. Les différences sur la couleur de peau, les différences sur les convictions, les différences sur la façon sur les avis politiques, les différences sur tel ou sur tel autre sujet. Et c'est cela qui déchire la société. Notre Église aussi, nous devons le reconnaître, nous sommes différents. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit que si on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a bénis, comment il nous a sauvés, comment il nous a élus dans les trois premiers chapitres, alors, dans ce que nous sommes en tant qu'Église, nous devons être unis. Mais ça ressemble à quoi? L'unité. C'est facile de dire « soyons unis ». C'est des slogans qu'on galvaude assez facilement. Ça ressemble à quoi d'être unis? Regardez, dans les premiers versets, les trois premiers versets, il y a au moins cinq choses qui nous disent à quoi ressemble l'unité dans l'Église. Je veux dire que quelqu'un qui entre là et qui voit cette Église, les moyens par lesquels il peut voir l'unité, l'apôtre Paul dit que c'est premièrement l'humilité. C'est au verset 2. Je pense, avec beaucoup de chrétiens, d'autres personnes, que l'humilité, c'est vraiment la plus belle de toutes les valeurs chrétiennes. L'humilité. Une valeur qui est sous-cotée dans notre société. Quand on parle d'humilité, ça donne l'impression d'être faible. Quelqu'un qui est humble peut souvent être regardé comme quelqu'un de lâche et quelqu'un de faible. D'ailleurs, à l'époque où l'apôtre Paul écrit cette lettre-ci, il invente le mot humilité. Parce que dans la culture gréco-romaine, il ne faisait pas bon d'être humble. Ça n'avait aucun sens. Tout le monde veut être le chef. Tout le monde veut être grand. Chacun veut faire valoir ses avis, ses intérêts. Et pourtant, Paul dit ici que dans l'Église, pour nous, la clé d'entrée vers l'unité, c'est d'abord l'humilité. Frères et sœurs, réfléchissez un peu avec moi. Qu'est-ce qui crée souvent les divergences? Qu'est-ce qui crée souvent les tensions? Est-ce que ce n'est pas lorsqu'on a un sursaut d'orgueil, lorsqu'on veut défendre ses propres intérêts, son propre avis? Pensez aux difficultés qu'il y a dans vos familles. Pensez aux divergences qu'il peut y avoir dans votre travail. Ça arrivera lorsque l'humilité sera absente. Et donc, dans l'Église, c'est exactement la même chose. L'apôtre Paul dit que la clé d'entrée vers l'unité, ça sera l'humilité. La deuxième chose qu'on voit toujours au verset 2, c'est la douceur. Vous voyez ça? La douceur. Quelqu'un a dit que la douceur, c'est la gentillesse des forts. Et j'ai beaucoup apprécié cette expression. La douceur, c'est la gentillesse des forts. C'est-à-dire que dans une situation tendue avec quelqu'un, vous avez tous les moyens de détruire la personne, soit dans la bagarre, soit en disant une parole, en disant un secret que vous connaissez de la personne, ou alors par quelque moyen que ce soit. Vous avez tous les moyens de détruire la personne, mais vous choisissez de ne pas le faire. Vous avez la puissance, mais vous décidez de ne pas l'utiliser. La gentillesse des forts. Et donc l'apôtre Paul dit, soyons doux les uns vis-à-vis des autres. La patience, au verset 3, c'est l'idée d'accepter que tout le monde ne fait pas les choses comme nous. Que tout le monde ne fait pas les choses à la même vitesse que nous. Au verset 3 encore, il dit « Vous supportant les uns les autres avec amour. » Alors, dans cette section, j'ai réfléchi un peu. Je me suis demandé, est-ce que l'apôtre Paul parle ici, quand il dit de se supporter, est-ce qu'il parle ici des personnes qui peuvent être difficiles? Ce frère ou cette sœur qui peut être difficile? Ce qu'il dit, c'est que si on doit se supporter mutuellement, en fait, il ne faut pas mettre cette personne de côté. Il ne faut pas fuir le regard de la personne quand on arrive. Ah oui, non, je ne veux pas lui dire bonjour. Donc on va vers d'autres personnes. Absolument pas. Me supporter mutuellement. Dans quoi? Dans l'amour. Je crois, frères et sœurs, que très généralement, même quand on... Et je peux comprendre. Je crois même que c'est un peu naturel. Et sûrement en lien avec notre nature pécheresse, qu'on puisse avoir des fois du mal avec telle personne, se dire, oui, bon, mince. Ouais. Mais je crois que l'expérience a souvent montré que dès qu'on s'intéresse un petit peu à cette personne, dès qu'on accepte de faire le premier pas, ou alors dès qu'on accepte le premier pas de la personne, et qu'on décide d'aimer cette personne-là, alors ça devient facile. OK? On la trouve moins insupportable. Et on commence à l'apprécier. Et mieux encore, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Je crois personnellement impossible, enfin difficile en tout cas, qu'on puisse prier pour quelqu'un et avoir du mal avec la personne. Je crois que c'est deux choses qui vont pas ensemble. Dès qu'on a... Si on sent ce sentiment bizarre monter dans notre cœur et qu'on décide de prier pour quelqu'un, pour cette personne-là, c'est sûr que le Seigneur nous emmène à nous supporter mutuellement. Et au verset 4, il parle de s'efforcer de conserver l'unité. Et donc, ça veut dire que des fois, ce n'est pas toujours facile. Ça demande un certain effort. Ça demande de donner de sa personne pour conserver l'unité. Donner de sa personne, ça veut dire quoi? Des fois, ça va signifier qu'il ne faut pas dire certaines choses. Ou alors, des fois, ça va demander de dire certaines choses. Des choses même souvent difficiles. Mais le dire comment? Avec humilité, avec patience, avec douceur. Vous voyez comment tout ça est lié? Voilà à quoi ressemble l'unité dans l'amour. Et donc, frères et sœurs, la première réponse que le Seigneur nous donne, que l'apôtre Paul donne ici, c'est de marcher dans l'unité, l'unité dans l'amour. Et je pense personnellement que l'unité dans l'amour au sein de notre communauté, l'unité dans l'amour au sein de nos relations est absolument impossible si on ne côtoie pas les gens. Est-ce que c'est possible d'être uni à quelqu'un qu'on ne côtoie pas? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qu'on ne côtoie pas, à qui on ne dit pas bonjour, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne fréquente pas? Et maintenant, la question, c'est le défi que j'ai envie d'envoyer à tout le monde maintenant, et j'espère que tout le monde va jouer le jeu. Est-ce que dans la semaine qui vient, vous voulez prendre le défi d'entrer en contact avec une personne de la communauté là, avec qui vous n'avez peut-être jamais parlé, ou avec qui vous avez le moins parlé? Vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire demain, vous pouvez le faire mercredi, peu importe. Et si vous sentez que c'est difficile, eh ben prenez le temps, dans les premiers jours, de décider d'une personne et de prier pour cette personne-là, et ensuite d'entrer en contact avec la personne. Il est impossible d'être uni sans se connaître. Impossible d'être uni sans s'aimer, sans s'apprécier. Le deuxième point, c'est l'unité dans la foi. On voit ça dans les versets 4 à 6. Regardez ce qu'il dit. « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ah, vous voyez, là maintenant, il n'est plus spécialement question d'amour, mais il est question de foi, il est question de ce qu'on croit. Si on peut trouver d'autres communautés de personnes qui se rassemblent et qui s'aiment, c'est possible. Mais alors, qu'est-ce qui les unit? Peut-être c'est une communauté de cyclistes. Ils sont unis par le cyclisme. Je veux dire, si on... mais nous, ici, ce qui est demandé, ce que l'apôtre Paul dit pour nous, c'est que l'Église doit être unie autour de ce qu'elle croit. L'Église doit avoir une base doctrinale qui ne change pas, qui est solide, qui est stable. Vous avez sûrement remarqué. Un seul corps, un seul esprit, un seul. Répétez 7 fois. Et donc, quand on parle d'unité, on peut se dire, ah oui, bon, l'unité en disant un seul. Peut-être que l'idée même de un seul peut être tout ce qui sépare les gens. Vous voyez, dès qu'on pense qu'il y a une seule façon de penser, alors ça inclut des gens et ça exclut des gens. Mais en réalité, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que pour l'Église, ce qui cristallise son unité, c'est la foi dans des choses claires. Imaginez, frères et sœurs, que quelqu'un parmi nous disait, il y a deux dieux. Ah, merci, Whitney. Ah, j'ai senti Whitney est entré en panique. Effectivement, on aurait du mal à s'unir avec une telle personne. Je veux dire, alors je ne parle pas de la vie en général, je veux dire, l'Église aura du mal à s'unir avec cette personne. Regardez d'ailleurs dans le verset 13 un peu. Regardez ce qu'il dit. Et puis on revient. Au verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Vous voyez, l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit que l'Église est unie dans le Fils de Dieu, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. De sorte que si quelqu'un ne croit pas dans tout ce que Dieu est et dans tout ce que le Christ a fait, alors il est en train de se désunir de l'Église. Et pas uniquement de l'Église, le refuge, mais de l'Église de façon générale. Vous savez, frères et sœurs, qu'en ce moment, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui essayent de retrouver les traces de leurs ancêtres. Okay? Mais alors, comment ils font ça? Sachant qu'ils ont été déracinés depuis plus de 500 ans. Comment ils font ça? Vous avez une idée? L'ADN. Trois mots. Enfin, trois lettres. L'ADN. L'ADN, les scientifiques disent qu'on a une signature unique. De sorte que si je prends si je tiens ce téléphone et que dans 50 ans on retrouve ce téléphone quelque part, on saura qu'il m'appartenait, que je l'ai tenu en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on saura toujours, peu importe où je me trouve, que c'est moi qui ai touché ce téléphone à cause de mon ADN. Quand on voit un groupe de personnes qui se réunit pour danser, on sait que c'est des danseurs. C'est leur ADN. Si on voit des gens en treillis avec des armes, on sait que c'est des militaires. Mais si on voit des gens qui sont humbles, qui sont patients, qui se supportent mutuellement, si on voit des gens qui ont un seul corps, qui croit en un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Là aussi, on sait que c'est l'Église. C'est l'ADN de l'Église. Je veux dire que quelqu'un peut entrer ici et il nous regarde. Il faut que ce qu'on vit et la façon dont on vit lui fasse comprendre que nous croyons dans ces choses aussi, de façon ferme, de façon claire. Et maintenant, quand je parle de s'unir autour de ces points de foi, je sais très bien, frères et sœurs, que on peut avoir des préférences et des convictions différentes. Alors, sinon, tu n'es qu'à moi, on chanterait du « À toi la gloire » tous les dimanches. Les vieux cantiques, les vieux hymnes, parce que j'aime bien ça. Mais évidemment, je suis très content qu'on puisse chanter sur des rythmes nouveaux aussi. Et je pense aussi que sûrement vous aussi, vous avez des préférences et des convictions différentes sur la forme du culte. Peut-être que vous préférez des cultes qui sont plus spontanés, moins formel, comme on essaie de faire ici. Peut-être sur le port du voile, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut se voiler la tête pour les femmes? Est-ce qu'il ne le faut pas? Peut-être que vous vous posez des questions aussi sur... Vous avez des avis sur la pratique des dons spirituels, etc. Mais en fait, devant chacune de ces choses, la grande question, c'est comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous devenez militant en essayant de renverser la doctrine de l'Église? Ou alors, vous vous dites, ok, je vais en parler pour qu'il n'y ait pas d'amertume dans le cœur, mais je vais en parler comment? Avec humilité, reconnaissant que je ne connais pas tout, en essayant d'entendre d'autres avis. En tout cas, personnellement, je suis ouvert à discuter de toutes ces choses-là, si besoin est. L'unité dans l'amour. L'unité dans la foi, sur les choses dans lesquelles on croit. Et maintenant, le troisième point, l'unité dans la diversité. On a parlé dans les 6 premiers versets de tout ce qui nous unit, de tout ce qu'on a en commun. Donc, l'amour, mais aussi la foi qu'on a en commun. Mais à partir du verset 7, il est question de tout ce que nous avons de différent, mais qui sert quoi? Le même but. Lequel? L'unité. OK? L'unité de l'Église. Et pour introduire cette section, regardez par quoi l'apôtre Paul commence au verset 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a au moins deux vérités dans ce verset. La première vérité, c'est que Dieu n'a pas donné à des gens toutes les compétences qu'il faut pour conduire l'Église. Absolument pas. Vous voyez? Et donc, s'il y a quelqu'un ici qui estime être suffisamment capable pour conduire une église, ce n'est pas vrai. Mais la deuxième vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a donné à chacun de nous des talents qui, mis ensemble, portent l'église vers la croissance. L'unité, mais pas l'uniformité. Nous avons des dons différents. Dimanche dernier, Benita est venue me raconter une discussion qu'elle a eue avec Dan Manuel. Alors, si vous avez souvent des discussions avec Dan Manuel, vous pouvez savoir que des fois, on peut être un peu perturbé. Dan Manuel qui va la voir et qui lui dit, « Je ne sais pas exactement quel membre je suis dans le corps du Christ. » Mais vous alors, frères et sœurs, savez-vous quel membre vous êtes dans le corps du Christ? Avez-vous déjà réfléchi à quel membre vous êtes dans le corps du Christ? Sur mon corps, je sais à quoi me sert mon bras. Je sais à quoi me sert mes yeux, à voir, à éclairer mon cerveau pour savoir où poser le pied. Savez-vous quel membre vous êtes dans le corps du Christ? Alors, sa maman lui a répondu. Elle a discuté de ça avec lui et elle lui a dit, en fait, il faut que tu ailles ranger ta chambre. En faisant ça, tu sers aussi l'église, puisqu'on fait une partie du culte aussi dans ta chambre. Et donc, après, c'est un peu en bazar. Donc, si tu vas ranger, tu es en train de servir l'église. C'est profondément ancré dans l'évangile, ce que tu vas faire là. Ça sert l'église. Et Dan Manuel a décidé, et il a dit, en courant pour aller ranger, ça veut dire que je suis les mains. Et en partant, il a dit que puisque l'année lui court partout, l'année c'est les pieds. Alors, je ne suis pas très convaincu de ça. Mais toute la question est là, frères et sœurs. Quelle partie de vous êtes-vous dans le corps du Christ? Dans le verset 7, en tout cas dans cette section-ci, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce qui est dit ici, c'est que Jésus est venu, il a remporté la victoire, et étant monté au ciel, il fait des cadeaux à l'Église. Et il fait des cadeaux sous deux formes. Il donne des dons, c'est-à-dire des compétences aux gens, mais aussi il donne des gens à l'Église, des personnes. OK? Si quelqu'un vous dit que vous ne servez à rien, alors lisez-lui, même si c'est au travail. Si votre patron dit que tu ne sers à rien, appelez-lui, montrez-lui dans la Bible, le verset 7. À chacun, Dieu a donné, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons tous des dons. Mais à côté de cela, il dit aussi que Dieu a donné quoi? Des hommes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Et donc, les apôtres et les prophètes, on a vu dans Éphésiens chapitre 3. Ils sont là, pourquoi? Pour le fondement. Ils étaient là pour fonder l'Église. Et maintenant, les docteurs, enfin les pasteurs, les évangélistes, ils sont là pourquoi? Pour diriger, pour conduire l'Église. Mais alors, frères et sœurs, regardez un peu les versets 11 et 12. Regardez, versets 11 et 12. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi? À quoi ça sert? Je veux dire, si vous me regardez, le pasteur, vous avez le droit de me demander, tu sers à quoi? Et la réponse, c'est le verset 12. La réponse est, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Comprenez bien. Le travail du pasteur, des docteurs, des évangélistes, c'est quoi? C'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est qui les saints? Qui sont les saints? C'est nous, merci, grâce. C'est l'Église. C'est chaque personne qui a mis sa foi en Jésus. Et donc, le travail du pasteur, c'est de perfectionner chacun de vous. C'est d'aider chacun de l'Église à grandir dans la foi, à développer quoi? Verset 7, le don qu'il a reçu. À croître, à grandir dans ce don-là. Pourquoi? Et c'est quoi le but? L'édification du corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ? C'est l'Église. Regardez donc maintenant. Le pasteur, les pasteurs servent à quoi? Au perfectionnement des saints. À former les personnes de l'Église. Pourquoi? Pour que les gens de l'Église progressent dans leur don spirituel. Et ensuite font quoi? Édifient l'Église dans leur don. C'est à ça que ça sert. Et donc, je serais très content de continuer d'enseigner à Dan Manuel. Dan Manuel, ce que ranger ta chambre, c'est super. Mais c'est bien maintenant de réfléchir que tu ne ranges pas ta chambre juste pour qu'elle soit rangée. Mais tu ranges ta chambre parce que tu sers l'Église. Vous voyez? Parce qu'en faisant ça, tu édifies l'Église. Il y a des personnes avec qui je lis la Bible régulièrement, semaine après semaine. Et c'est une telle joie de faire cela. Une telle joie de les voir progresser dans leur compréhension de l'Écriture. Et eux aussi, mon but, mon ambition, c'est quoi? C'est que, fort de cela, ils se mettent au service des frères et des sœurs. Quelle partie du corps... Et finalement, je vais le faire. Quelle partie du corps êtes-vous? Quelle partie du corps êtes-vous? Connaissez-vous vos dons? Et les gens me disent souvent, je ne connais pas mon don. En fait, ce qui est dit, ce qu'on sait, c'est que Dieu a fait des dons à tout le monde. C'est le verset 7. Comment ça, vous connaître son don? Une bonne chose, c'est juste de faire ce qu'il y a à faire. Vous aimez chanter? Voyez Grace et Sonia. Discutez avec elles. Vous aimez voir des personnes enseigner les enfants? Voyez Yann. Discutez de ça avec lui. Est-ce que votre talent, c'est organiser, c'est faire la cuisine? Eh bien, parlez avec Tantine Pierrette. Elle vous dira comment vous pouvez être utile quand on fait aussi bien l'apéritif que les repas d'église. Peu importe dans quoi vous êtes doué, ce qui est dit, c'est que nous devons mettre cela au service de la communauté. Et le verset 13, il dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. » En fait, ce qu'il dit ici, c'est que une fois que tout le monde est engagé dans la construction de l'Église, une fois que tout le monde accepte, reconnaît que ce n'est pas à Gaël de faire progresser l'Église, mais Gaël, c'est à Gaël de former les gens qui, eux, vont progresser dans leurs dons et édifier l'Église, nous allons tous grandir ensemble. Et une fois qu'on grandit ensemble, on sera des chrétiens stables et solides. Solide dans notre unité, dans notre amour, solide dans notre foi. On ne sera plus ballotté à tout vent de doctrine. Il y a toutes sortes de choses dans la... Quand on ouvre Facebook, TikTok, et si vous lisez, vous écoutez une vidéo d'une personne qui dit « Ah oui, mais la Bible, elle a été écrite il y a 2000 ans » et tout de suite, vous êtes en panique. « Ah mince, est-ce que je dois croire ça ?» etc., etc. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, c'est quoi ? On est ballotté à tout vent de doctrine. Mais quand l'Église a grandi et s'unit pour s'édifier ensemble, chacun avec les dons qu'il a, nous sommes des chrétiens solides, stables. Et pour y parvenir, Dieu a utilisé notre diversité, nos différences, les dons différents que nous avons. Maintenant, question pour terminer. Quelle partie du corps êtes-vous, frères et sœurs? Si vous avez un doute, si vous voulez discuter de ça, je serais très content de le faire. Venez me voir, écrivez-moi. On peut discuter de ça. Discuter de comment vous pouvez prendre votre place dans l'Église. Comment est-ce que vous voulez être formé? Et je serais très content de faire ça, de prendre du temps pour le faire avec chacun. On va prendre la